un phénomène inquiétant. À présent, de plus en plus de Français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Deux d'entre eux ont même dû être hospitalisés dans un établissement psychiatrique. Bazinga.
Il ne se nourrissait plus, il s'est enfermé dans sa chambre 3 semaines durant en se prenant pour son avatar, un elfe de la nuit. Bazinga.
Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Bazinga.
Citer Mediapart, qui se dit site d'information. Ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots. Bazinga.
Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg.
Bazinga.
Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
Bazinga.
Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
Bazinga.
D'une manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
Bazinga. Down in the tram is me and my baby, we're all
going crazy, bug jumping and having fun. Quel effet fantastique.
Ouais, on aurait pu avoir un jingle.
Ah, le doux bruit.
Le doux bruit de la liqueur.
La chanson.
Bienvenue dans Bazincast numéro 7, le podcast réformé P4 de ceux qui, de toute façon, n'ont pas eu à se présenter à leur service militaire, car ils sont trop jeunes.
Quoique, le sondage nous montre que la moyenne d'âge a dû connaître le service militaire.
Je pense que Piouf parlait de nous, en fait, mais...
Ouais, à mon avis.
Ouais, ouais.
Mais ce n'est pas grave.
D'ailleurs, la moyenne d'âge a sans doute connu aussi la guerre en Algérie.
Et on a quand même fait 3 jours, hein. Ça s'appelait comment déjà le service
C'est une journée et c'était journée, la JAPD.
Ah, la JAPD.
La journée à...
Mais je pense que de toute façon, tu te bases sur le sondage, mais le sondage ne présente pas encore assez d'auditeurs parmi les centaines et les centaines qui nous écoutent.
Centaines de milliers, tu veux dire.
Oui.
Oui, pardon, mais je parle
millions.
Pas
même,
c'est tu, parles, tu parles en kilo auditeur, quoi.
C'est ça, ouais. Ouais. C'est comme pour les salaires.
Un peu les traders de la podcastosphère française.
Ouais. Xil, présente-nous ton...
Mon sondage. Alors, en effet, comme certains d'entre vous l'ont déjà vu, il y a un petit sondage qui est disponible sur le site.
Bazincast.com.
Oui. Qui vise à mieux vous connaître. Donc, n'hésitez pas à répondre. Il y aura un lot à gagner. Alors, on ne va pas vous le dévoiler maintenant pour ne pas biaiser en fait les réponses du sondage et pas avoir un seul type d'auditeur qui répond. Mais ce sera bien sympa. Et allez sur le site et répondez. Voilà, c'est
alors,
tout.
J'adore quand tu dis c'est bien sympa alors que tu ne sais même pas toi-même ce que ça va être.
Je ne sais pas encore.
Pour vous motiver encore plus, Xil a mis pour déconner dans les sujets qu'on pourrait aborder le tuning. Et pour l'instant, ça a un nombre de votes assez conséquent. Donc il n'est pas impossible, si vous ne votez pas contre, qu'on se mette à parler tuning.
Voire qu'on mette des néons dans Bazincast.
Et ce n'est pas du tuning de PC, hein, c'est du tuning de bagnole. Voiture. Hein.
Tout à fait,
de Kiki. Ah là là.
Tu sais que là, tu viens de nous faire perdre un tiers de nos auditeurs du Nord-Pas-de-Calais.
Ouais, mais zut alors.
Ils ont internet là-bas.
En parlant de
56K,
jeux. Ouais. En parlant d'un jeu concours, il serait peut-être temps de faire gagner le lot de ce mois-ci qui était quoi déjà ?
Link, un magnifique jeu de société.
Superbe.
Comment je t'ai oublié.
Et donc Robert, qu'est-ce qui va donner le chiffre aujourd'hui? Ça va être la seule. Ah oui, mais Micha n'est pas là ce soir. Donc il y a une seule représentante féminine. C'est à Liliane de donner le chiffre, car les femmes sont
nombre à 2 chiffres.
À 2 chiffres.
Ouais, voire à 3 maintenant, à 4.
Oui. 452. Ok, 52.
Alors, 52, eh bien, ce sera Lord Ethanol.
Lord Ethanol, dis donc, bravo.
Enfin, quelqu'un du site, parce que Facebook, il y en avait un peu ras le cul.
Voilà, donc c'est enfin quelqu'un du site qui a gagné, bravo. Pour le prochain jeu, c'est cette fois-ci moi qui vais choisir le lot, et ça va être un petit bouquin qui s'appelle « Philosophie en série ». de je sais plus qui. C'est mon téléphone.
Ah, très bon auteur, très bon auteur.
Le docteur, je sais plus qui. Non, c'est Thibaut de Saint-Maurice. En gros, c'est un petit bouquin qui est plutôt pas mal, que je vais lire dans l'avion et que je vous enverrai quand je rentrerai de vacances.
Donc là, en fait, tu dis qu'il est pas mal, mais tu ne l'as pas encore lu.
Non. La vengeance d'Exil.
Le mois suivant, Piu va vous faire gagner sa poubelle jaune de recyclage.
Je t'emmerde. Ça parle donc de plusieurs... Enfin, ça parle de quelques thèmes de philo et comment ils sont abordés dans les séries. Donc, en fait, ça te présente deux, trois thèmes, des grands thèmes de base. Quoi. Voilà. Avec des exemples de séries. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pour participer, on rappelle qu'il faut soit venir poster gentiment pour nous donner des petits conseils ou des critiques ou juste nous dire coucou sur notre site
basingcast.com,
sur Facebook www.facebook.com/basingcast, sur mon Twitter @mr_piouf, et maintenant il y a le Twitter de Xil
@xilrian, xilrian,
et ceux qui sont...
On dit pas underscore, on dit tiret de soulignement, s'il te plaît.
Puis il y a même le Twitter de...
Et on dit pas
Libby
fuck you,
aussi.
On dit je t'emmerde.
Merci monsieur.
Je t'encule. Ouais. Enfin, bref. Bref. Et surtout, le plus important, parce qu'on a quand même pas énormément de commentaires. Enfin, je crois qu'on a 38 notes sur iTunes. Donc, comparé aux millions d'auditeurs, ce serait quand même de peu d'auditeurs.
À la seconde.
Voilà, à la seconde surtout. En live. Oui, allez surtout mettre des commentaires sur Twitter. C'est sur...
Sur iTunes, c'est ce qui
avec
permet.
5 étoiles, bien sûr.
Avec 5 étoiles, bien sûr.
Pour faire revenir Micha, bien sûr.
Exactement, parce qu'elle est partie, elle boude.
Ça nous permet d'avoir plus de visibilité, donc plus d'audience et de nous motiver plus pour continuer.
Mmh. Et voilà, je vous rappelle qu'il y a le prix aussi. Au bout de, on avait dit combien de commentaires?
1000.
C'est le fil rouge, ça. Bon, ça, on est un peu loin.
Ouais.
Ok, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Enfin, nous allons revenir vers un débat un peu plus sérieux. Et un peu plus préparé surtout. Nous
avons parlé bien le débat sur les copines, je trouvais que c'était sérieux.
Oui, non, c'est très bien, mais...
Pour ou contre les copines? Ça, c'est une bonne question.
Nous allons parler aujourd'hui de vie privée à l'heure des nouvelles technologies, avec différentes problématiques. Ensuite, en fait, on va faire un épisode assez... On enregistre un double épisode parce que je serai en vacances, donc les deux prochains épisodes seront assez courts.
À Fukushima.
Voilà. Non, finalement, je ne vais pas à Fukushima.
Donc, il n'y aura peut-être jamais d'épisode 9, en fait.
Je vais à Bali. Tout ça pour dire qu'ensuite, il y aura Xil qui nous fera une petite rubrique pour parler de...
Podcast. C'est-à-dire que je vais vous présenter des podcasts.
C'est quoi, hein? Comme c'est original.
Voilà, et ce sera plutôt des podcasts radiophoniques. Enfin, ce sera un petit mélange, vous savez.
D'accord.
Voir.
Donc, cette fois-ci, pas trop la théorie du podcast, mais plutôt des critiques. Qu'est-ce que t'aimes?
Voilà, je vais présenter 5 podcasts que j'aime bien.
Parfait.
C'est marrant, mais finalement, il y a quand même les meilleures émissions de télé. Souvent, c'est celles qui parlent d'autres émissions de télé, et les meilleurs podcasts, c'est ceux qui parlent d'autres podcasts, finalement.
Mm-hmm. Comme Basingcast.
Ça s'auto-suffit. Basingcast, on pourrait parler de Basingcast toute la journée.
Par contre, les meilleures émissions de télé qui parlent de la télé, généralement...
Non, mais les zappings, c'est toujours ce qu'il y a de plus marrant à regarder.
Morandini, vachement bien, Morandini.
Mais voilà, il y a quand même une énorme quantité de...
Daily Show, par exemple, dont tu parlais la semaine dernière, que tu adores.
Oui, enfin, ça parle pas que de télévision.
Non, mais bon.
Bref. Passons. Et nous allons donc passer...
Au débat.
Au débat direct. Hein. Allons-y.
If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. But if you really need that kind of privacy, the reality is that search engines, including Google, do retain this information for some time. And it's important, for example, that we are all subject in the United States to the Patriot Act. It is possible that that information could be made available to the authorities.
Donc, je suppose que tout le monde connaît ces petits extraits de notre ami PDG de Google, Eric Schmidt, qui, dans la première partie, en gros, dit que si vous avez quelque chose dont que vous ne voulez pas rendre public, c'est peut-être que vous ne devriez pas le faire à l'origine. Donc, ce qui remet quand même beaucoup en cause la notion de vie privée. Il y a un lien logique très fort entre si tu le caches, c'est que c'est mal. Et ensuite, par contre, une partie qui est souvent coupée et qui est assez intéressante aussi, qui est plus la partie réaliste. Du truc, à savoir, de toute façon, il y a des lois pour assurer la sécurité.
Le Patriot Act.
Le Patriot Act aux États-Unis.
Passé après le 11 septembre, je crois, d'ailleurs.
Yep, en tout cas accentué. Et qui, là, sous-tend plus la théorie que, en tout cas, la conséquence du fait que, pour assurer la sécurité, il faut supprimer une certaine partie de la vie privée des gens. Donc ça nous fait déjà quelques axes de réflexion. Le premier étant...
C'est pas exactement ça, c'est juste tout ce qui est sur Internet peut être récupéré par l'État.
Voilà, donc ouais. vous devez en être conscient.
Non, ce qu'il dit, c'est que son entreprise doit respecter cette loi, à savoir, on log tout ce que vous faites. Pour la sécurité. C'est que ma société qui est Google, c'est pas qu'on est le most trusted friend. Trusted friend, c'est qu'on respecte les lois, quoi.
Alors, moi, je suis pas tout à fait sûr dans le sens où... Enfin, la loi l'oblige à donner ce qu'il a récupéré. Maintenant, je sais pas si la loi l'oblige à loguer.
Bah, c'est la même manière que tes failles sont obligées de loguer plein de trucs, etc. Après, il est sûr que Google, de toute façon, log beaucoup plus de choses que la loi... oblige.
Mais bon, faut qu'ils arrêtent de se faire passer pour les victimes du Patriot Act. Eux aussi le font pour leur propre dessein machiavélique.
Oui, voilà. Non, mais contrairement
à Facebook, moi je suis plutôt, en tout cas dans les dirigeants et les créateurs de Google, je suis plutôt, j'ai plutôt foi. Donc déjà la première notion qui est
Ceci dit, ça a quand même foutu une bonne douche froide à tous les fans de Google, moi le premier, que le PDG dise.
Oui, mais c'est son sens de l'humour. Hein. Pour info. Il le pense pas, ça. Ah. C'est un peu comme le mec de Microsoft. C'est des gens qui ont un sens de l'humour. C'est très pince sans rire. Lui, il est extrêmement pince sans rire. C'est un humour particulier, mais il ne pense pas ça.
C'est vrai qu'on discutait la semaine dernière sur le cours de golf.
C'est quelqu'un de très sympathique.
Arrête de balancer les informations sur nous. Donc déjà cette notion de
il te rachète Pervenche 1.0 au final.
Le trait d'humour qu'il fait déjà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? En gros, la notion de, on va peut-être passer rapidement là-dessus, de si vous voulez le cacher, c'est que peut-être qu'il faut pas le faire.
Ah, si tu dis que c'est de l'humour, ça change tout, parce qu'évidemment c'est une énorme connerie, puisque cette phrase-là fait une partition entre ce qui est légal et forcément public, et ce qui est caché et forcément illégal, ce qui est évidemment une partition complètement stupide.
Légal ou moralement, il fait pas de distinction entre la légalité ou peut-être moralement, ne pas le faire, ça peut être soit la légalité, soit la moralité.
Ouais. Par exemple, quand tu cherches des photos de petites filles sur Internet.
Alors ça, justement, c'est pas légal.
Qu'il y a Google,
c'est légal
pour ça.
Et moralement raté.
Ah, moralement.
Moralement raté.
Pourtant, c'est l'Église qui m'a.
Tu es très moralement raté.
Non, voyons. Si jamais tu as bien retenu la leçon de l'Église, tu ne devrais pas faire de distinction entre les petits garçons et les petites filles.
Ah, pardon. Il me semble bien avoir loupé un cours de catéchisme.
Bon.
T'étais occupé avec le curé.
Déjà, étudie un peu la notion de données personnelles. En gros, il y a plusieurs législations qui parlent de ça. Donc, il y a les données personnelles sont soit la juxtaposition du nom et prénom plus une donnée personnelle. Donc ça, c'est la définition des États-Unis et la définition plus européenne et française. Soit donc des données permettant d'identifier une personne à coup sûr, à savoir son état civil, par exemple son adresse IP. Un login, un type d'adresse, courriel, postal, téléphone, etc., un numéro de sécurité sociale, ou des caractéristiques biométriques. Donc tout ça, c'est... Donc déjà, on voit qu'il y a une notion un peu différente aux US et en France.
Enfin, si juste le nom et prénom, c'est une donnée personnelle aux États-Unis, tu m'étonnes qu'ils violent ça tout le temps, c'est infaisable.
C'est l'association, en fait, de plusieurs données. Après, de toute façon, tu as des lois qui protègent ça. En France, on a la loi informatique et liberté, on a tout ce genre de choses. Et après, il y a eu la création de la CNIL pour tous les fichiers qui doivent être déclarés.
Qui nous protègent relativement peu. Hein,
Ah oui, c'est pas parce qu'on le déclare que, ouais. qu'on est protégé.
Parce que va appeler la CNIL pour dire qu'il y a un mec qui te spamme régulièrement. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Pas grand-chose. Certaines données sont particulièrement...
Ils peuvent envoyer un email à Dopi.
...sont censées être particulièrement être protégées, à savoir le numéro de sécurité sociale qui, en France, on l'appelle abusivement numéro de sécurité sociale, mais en fait, c'est ton identifiant national. C'est vraiment la chose qui te définit en France.
Oui, mais en France, vu qu'on est anti-tout, anti-pistage notamment, si on disait que c'est le numéro national, tout le monde serait contre, alors que numéro de sécurité sociale, ça fait « Ah, c'est bien, c'est healthcare ».
Ouais, et les données biométriques. Donc, par exemple, bah, maintenant c'est vachement utilisé dans les passeports, etc. Et surtout tout ce qui est données personnelles, alors ça c'est des c'est plus pas vraiment des données, mais plus des informations personnelles, orientation sexuelle, les dossiers de santé, toutes les informations relatives à la santé, etc.
Les empreintes génitales, tout ça.
Exactement.
Très en rapport avec l'inflation d'ailleurs.
Exactement. Donc en gros, d'après la loi informatique fichiers et libertés de 1978, en gros, pour ce qui est du secteur privé, donc là ça exclut le secteur public, toutes ces informations ne peuvent pas être collectées, traitées et conservées sans qu'il y ait une déclaration préalable à la CNIL. Et un numéro d'identification qui correspond à ce dossier à la CNIL doit être par exemple mis sur le site web ou là où il y a... où on collecte les données, en sachant que les partis politiques, les églises, les syndicats et les associations ne savent pas tenus de déclarer le fichier de leurs membres à la CNIL.
Les associations ? Oui, de leurs membres.
De leurs membres. Et les sites web mis en œuvre par des particuliers, dans le cas d'une activité exclusivement personnelle, sont aussi dispensés de déclaration.
Et encore heureux.
Exactement. Sachant que ça n'est pas valable donc pour ce dont je parlais tout à l'heure, ça va être données sensibles, caractère ethnique, caractère racial... philosophique ou religieux, appartenance syndicale, etc., vie sexuelle, ça, c'est interdit de les collecter.
Tu veux dire que une église n'a pas le droit de...
n'a pas le droit de mettre...
L'organisation religieuse n'a pas le droit d'enregistrer l'appartenance religieuse de ses membres.
Bah, directement, normalement, non. En fait, en France, tu dis pas que tu... C'est pas une appartenance religieuse, c'est un appartement à une église, c'est pas pareil. C'est pas la philosophie, c'est... Bref.
Non, c'est le dogme. T'as pas le droit de faire une liste de noms en disant
c'est le dogme, mais pas la foi.
Qu'ils sont.
J'avais compris, c'était juste pour faire une blague.
Pour les données sensibles, évidemment, la seule exception, c'est les fichiers d'État, à savoir la police, les RG et compagnie, sous certaines conditions. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a eu, bon, on a tous entendu parler de certains scandales, surtout dans les dossiers de police, sur les informations sensibles. Un peu d'historique vite fait. Qu'est-ce que je peux vous dire en historique ? Oui, donc tout le système français d'identité. Parce qu'à l'origine, on utilisait seulement deux témoins pour faire les démarches administratives. Il suffisait d'amener deux témoins et on savait que tu étais la bonne personne parce que les deux témoins disaient que tu étais la bonne personne. Et au final, c'est finalement à la suite des guerres, et ça me souvent des guerres, que petit à petit, que ce soit en Angleterre ou en France, les systèmes d'identification des gens se développent. Le dernier étant bien sûr sous Vichy, avec la loi du 29 octobre 1940, qui après bien sûr n'a pas été abolie après-guerre comme beaucoup de lois, et en gros qui instaure la carte d'identité nationale, qui à l'origine était obligatoire et qui ensuite ne deviendra plus obligatoire à partir de 1955. Voilou, c'est les premiers fichage. Donc le premier axe, c'est en gros ce que soulevait le monsieur Schmitt, à savoir si on n'a rien à cacher, est-ce que on doit se... Pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à ce débat de la liberté informatique et de la... Parce que maintenant tout ça c'est informatisé, mais surtout de la protection de ces données.
Déjà, est-ce que tu veux parler seulement des données ou est-ce que tu veux parler de façon générale, puisque le débat est assez semblable à celui des caméras de sécurité un peu partout?
Bah, d'une certaine manière, c'est lié, parce que la caméra en te prenant, c'est des données, quoi. Tu as été là à tel moment, tu as fait ça, c'est ton image. Donc d'une manière générale, voilà. Est-ce que tout le monde en est conscient de ça, ou est-ce qu'il s'en fout, ou est-ce que ça lui fait peur, ou est-ce que... Est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'il y a des gens ici qui se disent comme j'ai rien à cacher, je m'en fous?
Ce qui est le raisonnement de la plupart des gens.
Bah apparemment, on va voir.
On peut pas tout à fait se dire ça, dans le sens où même des détails anodins que l'on peut communiquer qui ne sont pas gênants peuvent se révéler gênants, utilisés par d'autres personnes. Il y a aussi toujours cette question de, qui est souvent abordée dans ce genre de débat, que à partir du moment où on considère que notre gouvernement est entre guillemets bon ou veut notre bien, ce qui est déjà pas forcément le cas de tout le monde, on peut accepter de lui confier tout un tas d'informations sur nous, personnelles.
Ça, je suis pas d'accord.
Enfin, Ça peut être une logique. On peut partir du principe, mon gouvernement est bon, il ne va pas faire une mauvaise utilisation des informations que je lui donne, je peux tout lui donner. Mais même en partant de ce principe-là, tu peux pas être sûr qu'il va y avoir pérennité dans le temps. La France a été gouvernée, en effet, par le régime de Vichy, par tout un tas de régimes d'obédience diverses. Et il y a toujours cette question qui reste de je confie des données personnelles à un organisme en lui faisant confiance, mais qu'est-ce qui me dit que cet organisme ne va pas changer, ne va pas devenir quelque chose qui œuvre contre moi, ou qu'est-ce qui me dit qu'un autre organisme à qui je ne fais absolument pas confiance ne va pas trouver un moyen de pirater, de récupérer les informations j'ai données à quelqu'un d'autre, en admettant que je lui fasse confiance, qui est un postulat
ce qui est très ancré en France et en Europe, comparé aux États-Unis par exemple. Et notamment, je parlais des données sensibles. Il n'y a pas beaucoup de pays où finalement il y a des données qui sont interdites. Quand on regarde les systèmes de recensement de la population, il y a toujours le long débat en France de on n'a pas le droit de récupérer plein d'informations, même si c'est anonyme, sur la sexualité, l'ethnie, etc. Alors qu'aux États-Unis, il y a des recensements ethniques anonymes à des fins statistiques, et en France, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'en France, c'est vrai qu'on est plus dans cette lignée grâce à l'histoire. En savoir
l'influence de la Seconde Guerre mondiale d'un autre côté le côté laïque le constitutionnellement laïque de la France qui est pas le cas des États-Unis par exemple.
C'est vrai.
Mais c'est... le côté laïque empêcherait pas de
le côté
de dire
laïque
qui est de quelle religion. Je pense que tout ça vient de la Seconde Guerre mondiale.
Je pense en France ça empêche de dire de enfin vous voyez c'est le cumul des deux mais la Seconde Guerre mondiale pèse pour moi surtout dans le côté ethnique mais aussi un peu dans le côté religieux et le côté laïque surtout dans le côté religieux mais bon ça.
Ouais, c'est assez vrai. Moi je me souviens que mon père a été choqué de voir sur le passeport de Micha par exemple sa religion. C'était pas d'un point de vue historique, c'était vraiment d'un point de vue laïque, quoi.
Oui, il faut dire que en Indonésie, je dis pas de conneries, ou à Singapour, t'as l'obligation d'avoir
Il y a pas mal de pays comme ça.
T'as obligation d'avoir ta religion sur ton passeport, et en plus que les lois qui s'appliquent dépendent de ta religion, genre.
Tout à fait. En Malaisie, c'est le cas. Ouais.
Ça, en Malaisie, c'est le cas.
T'as des tribunaux différents en fonction de ce que tu es musulman ou si tu ne l'es pas.
Oui, et tu vas avoir ou pas le droit de consommer de l'alcool dans un bar, en tout cas en Indonésie.
Et il y a des pays qui sont oui qui voient par exemple en Arabie Saoudite ou d'autres pays comme ça qui où c'est extrêmement mal vu si tu débarques à la douane enfin si tu ne déclares pas ta religion ou si tu te déclares athée par exemple sur ton formulaire d'entrée. Il y a beaucoup de pays très religieux où s'ils sont ouverts à d'autres religions mais il faut que tu en aies une.
Tout à fait, enfin oui, bon.
On déborde un peu.
Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses, Trolin?
Moi je Déjà, moi, je c'est moche, mais je pense que il y a assez peu d'informations qui me gênent vraiment de communiquer. À chaque fois qu'il y a quelqu'un que je connais, je me dis par exemple, tiens, il a quel âge ou des trucs comme ça. Moi, je me dis toujours que s'il pouvait y avoir une page Wikipédia sur chacun d'entre nous, ça serait quand même vachement pratique. Il y a un autre truc aussi sur la diffusion des informations.
Ça s'appelle Facebook.
Ouais, mais la recherche de Wikipédia est un mauvais exemple parce qu'elle est nulle, mais Facebook, c'est tellement innavigable que de toute façon...
Ouais, mais mine de rien, c'est ça qui est génial, c'est que si tu dis à des gens « je vais collecter des données sur vous », ils vont gueuler. Si tu leur proposes de les donner tout seul, ils vont toujours être super contents.
Oui, donc, c'est le...
Et ça va un peu dans le sens d'un autre point qui m'intéresse, c'est que si il y a une façon de communiquer des données plus ou moins officiellement... on a plus de chances qu'elle soit juste et de pas avoir... pour moi, je pense qu'il est assez facile, si vraiment on veut nuire à quelqu'un, plutôt que de collecter des informations sur sa vraie vie, c'est facile d'en créer des fausses et de les diffuser et tu peux lui pourrir la vie bien plus facilement qu'en collectant les vraies.
Tout dépend quel est ton objectif, par exemple. Oui. Si tu es Hitler, t'es pas là pour faire de la désinformation, quoi. T'es là pour
si tu veux
la
tuer
personne,
tous les juifs,
Hitler était quand même assez fort en désinformation.
Oui, on est d'accord, mais ton but est d'avoir les informations pour pouvoir cibler en gros tes actions et.
Bien sûr, mais si tu les veux, tu les trouves. Enfin, je veux dire le fichier en soi.
Pas nécessairement. Imagine que tu veux trouver tous les.
Tiens, petite question. Vous pensez que ce serait plus simple maintenant? À l'époque du régime nazi, de retrouver, par exemple, tous les musulmans résidant en France ou tous les juifs résidant en France. Moi, je dirais plus simple maintenant. Mais...
Ouais, ouais, je pense largement. Mais...
Ouais, moi, je suis pas. Non, parce que déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de diagnostics et... maintenant.
Ouais, mais c'est pas grave, déjà, ça se transmet par la mère ou par le père selon la religion.
Oui, mais résultat. C'est
quand, quand t'as une idée de l'eugénésie, tu t'en fous.
C'est-à-dire que si les gens sont moins pratiquants, en dehors des fichiers, c'est moins facile de les repérer.
Il y a une bonne partie des juifs qui se sont fait exterminer pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'étaient pas particulièrement pratiquants. Et je tiens à préciser que les juifs ne sont pas les seuls à s'être fait exterminer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait peut-être arrêter de l'oublier quand on en parle parce que ça m'énerve particulièrement.
Il y a aussi les gitans, les homosexuels, tous les nomades d'une manière générale.
Tous les opposants politiques.
Les opposants politiques, etc. Voilà. Merci pour cette petite mise au point dieudonesque, mon cher.
Oh non, vraiment un enfoiré.
Et du coup, ouais, non, je pense que ça dépend des informations. Moi, je trouve ça normal qu'il y ait un minimum de recensement, au moins au niveau de l'État, pour savoir qui est là. Après, chaque info est à traiter avec considération. Par exemple, les caméras de surveillance. Bon, il a été prouvé que c'est pas très efficace, donc je suis pas particulièrement pour, mais je suis pas particulièrement contre non plus. Être quelque part, c'est pas quelque chose, pour le coup, que je considère qu'on a besoin de cacher.
Non, mais c'est un recul des libertés. Alors, les caméras de surveillance, il y a deux problèmes. Déjà, il y a toutes les mauvaises utilisations. Par exemple, il y a une étude qui a montré que, je sais plus, il y a 15% du temps total d'utilisation des caméras de surveillance, c'est pour mater les filles particulièrement, enfin, de zoomer.
Tout le monde le fait au boulot, donc là, ils sont devant l'écran, donc ils s'arrangent, quoi.
Donc il y a ça, et il y a aussi le principe du recul des libertés. Un recul de liberté, en soi, si on se pose la question, c'est pas grave. En effet, être filmé partout, c'est pas grave. Maintenant, le problème, c'est juste qu'il y a tout un côté infantilisation. C'est-à-dire que t'es tout le temps filmé parce que tu es tout le temps éventuellement dangereux. Parce qu'il peut y avoir des problèmes partout. Donc déjà, tu nous fais peur en nous disant qu'il y a des problèmes partout. Tu nous fais de nous des coupables potentiels en disant qu'on peut, être dangereux. Et il y a surtout toute la partie où on va te... Dans le doute, on va virer cette liberté. Mais c'est pas très grave parce que ça va rien te coûter. Mais quand même, on te l'enlève quand même. Et donc en soi, tu te dis, bon bah, en effet, ça me coûte rien, donc c'est pas grave. Mais au final, t'es comme un gamin qui a plus de liberté, qui a plus de responsabilité. Le jour où tu fais une connerie, t'es tout de suite pris. Il y a plus de libre arbitre, en fait. Je sais pas si c'est
non,
si c'est clair.
Non, je suis assez d'accord avec toi. Surtout qu'il y a un autre point qui va dans le même sens, et t'allais peut-être le dire après, mais jusqu'auquel t'es pas allé. C'est que, justement, t'enlèves la responsabilité, et ça permet à chacun de se dire... j'ai pas été vu par la caméra de surveillance. S'ils servent de ça, quelque part, si je suis pas vu, c'est que je suis pas pris.
Et
que c'est pas grave. Je veux dire.
Pervenche 1.0.
C'est un peu exactement. Ça. Non, mais la caméra est pas forcément l'exemple exact. Mais à partir du moment où tu te dis si tout est fiché, c'est que c'est une sécurité. C'est que tu te dis que si t'es pas fiché. T'es pas un risque.
Non, mais je suis d'accord. Enfin... Vas-y
qui
Piouf. Piouf,
levez le bras très haut, on a l'impression qu'il allait s'envoler, c'est pour ça qu'on lui dit vas-y.
Je me suis demandé s'il ne levait pas le bras comme un anarchiste ou un communiste, ça m'étonnait beaucoup de Piouf.
Pas trop. Juste une petite précision sur les caméras de sécurité, parce qu'on y est. On se plaint toujours des villes et des... genre les Balkany et compagnie. En gros, les politiques publiques de caméras de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut peut-être se calmer au niveau de ça, dans le sens où c'est pas les principaux à blâmer. Au final, elles sont assez peu utilisées pour la résolution des crimes. Et c'est surtout toutes les petites caméras dont on fait pas attention, qui sont plein de petites caméras privées. La caméra du distributeur, la caméra de l'épicerie du coin, la caméra du supermarché, la caméra du machin, où là, où on se dit, bon, bah, en fait, on n'y fait pas vraiment attention à ces caméras-là, on se focalise sur le maire, le public, les flics qui mettent des caméras, et c'est pas celles qui représentent la majorité, c'est pas celles qui, au final, servent
non,
à faire ça.
Mais
oui,
justement, parce que, attends, c'est là où j'en parlais il y a deux secondes. Ce qui est important, c'est pas le fait d'être filmé, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le fait que ils te disent que tu vas être filmé, et ça, c'est un recul de liberté.
Alors,
c'est un principe.
Ouais, je sais pas tout. Ouais.
Alors, il y a. Bon, Je vais pas redire ce que je disais tout à l'heure. Il y avait aussi l'aspect de l'utilisation qu'on peut faire potentiellement néfaste de ces caméras de surveillance si le contexte change ou si quelqu'un de mal intentionné utilise le système. Mais il y a aussi la question de la plupart des, une grande partie des caméras mises en place par les municipalités sont des fausses caméras de surveillance.
Il n'y a personne derrière, où il n'y a pas de sauvegarde.
Qui ne filment absolument rien, ou où il n'y a pas de sauvegarde, ou qui sont juste là pour faire peur. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que Krilin va être carrément contre. Moi, je suis beaucoup moins contre ce type de caméra que les vraies caméras de surveillance, pour le coup.
Juste avant que Krilin intervienne, ce qui me gêne, c'est que justement, tu ne sais pas si tu es filmé ou pas. Il y a l'aspect... c'est dissuasif, mais je trouve ça encore plus gênant de se dire, résultat, je sais pas quand je suis vraiment filmé ou pas. Quand on atteint à ma liberté ou pas. À ma vie. Enfin, c'est à double tranchant. Mais laissons Krilin réagir.
Non, mais moi, ça me dérange pas, de toute façon, puisque le seul effet des caméras, c'est pas sur la sécurité, c'est sur l'impression de sécurité. Donc, des fausses caméras, ça le fait autant. Moi, mon problème, c'est pas tant qu'ils filment, comme je le disais, c'est le fait qu'ils aient décidé qu'ils allaient regarder en permanence la population par des caméras, par du filtrage numérique de tes données, enfin de ta navigation, par des logs pendant un an de tout ce que tu fais sur Internet. Tout est logué par les FAI et ça peut être récupéré. En soi, je pense pas que ça puisse être mal utilisé, ou je le vois pas pour l'instant, mais peut-être qu'il y a des solutions. C'est juste que vraiment, on en est à un point où tout le monde est fiché, tout le monde est... Et finalement, quelle est la différence entre un État policier qui veut avoir le contrôle complet sur sa population et une démocratie qui fiche tout le monde pour des questions de sécurité?
Bah, c'est le diktat de la peur. C'est pas le diktat d'un dictateur, mais c'est le diktat de la peur des gens qui demandent une sécurité accrue, alors qu'en fait c'est pas forcément
personne
ça qui va leur
demander une sécurité accrue.
Pardon. T'as vu les votes aux dernières élections récemment?
Oui, mais
il y a tout le monde qui demande une sécurité accrue.
On va pas lancer
un
débat là-dessus.
C'est pas tout le monde qui demande une sécurité accrue. C'est à peu près 30%, voire 35-40 de la population française.
35-40%
de ceux qui ont voté.
Mais surtout majoritairement ceux qui ont voté, quoi.
Et surtout, c'est pas dit que ce soit ça qu'ils aient demandé, comme l'expliquait Emmanuel Todd sur Arrêt sur Image ou à France Inter il y a peu de temps. Les gens qui votent Front National, c'est pas nécessairement juste le côté j'ai peur de mon voisin, c'est aussi beaucoup j'en ai marre et j'aimerais bien avoir un salaire potable.
Moi je parlais plus UMP que Front National pour le coup.
C'est la même chose.
Donc,
je suis d'accord là-dessus.
Ok, donc d'après vous, déjà ça apporte pas forcément une sécurité supérieure et en plus c'est un principe néfaste.
Ah, c'est pas une sécurité, ça rassure les gens, mais ça apporte pas plus de sécurité.
D'accord, surtout que sachant que normalement...
Bah, théoriquement parlant, ça doit être dissuasif.
Oui, mais pour moi, la majorité des actes de violence, on parle beaucoup à TF1, des trucs qui se passent dans le métro, etc. Machin, mais au final, beaucoup d'actes de violence, c'est quand même des actes du quotidien, au sein des familles,
oui,
au sein avec des gens qu'on connaît, etc. Et à moins de mettre une caméra dans la chambre des gens...
On est tout à fait d'accord.
Il y a une autre raison de rogner donc cette liberté à la vie privée. Et bon, Trollin a déjà parlé de ce qu'on appelle le paradoxe de la vie privée, à savoir...
Ça, c'est Krilin qu'on a parlé.
C'est Krilin qu'on a parlé. Ah, bravo Krilin. Donc, t'as parlé de ça, à savoir... Moi, je trouve que ce paradoxe...
À savoir, personne veut qu'il soit fiché, mais si on lui propose de remplir la même chose que la fiche bénévolement, il va être tout content de le faire.
Exactement. Mais moi, je trouve que ce paradoxe... en gros, il me représente assez bien. Et surtout... déjà, d'un point de vue, c'est volontaire, ça responsabilise les gens. Il n'y a pas de choses obligatoires qui peuvent être faites à ton insu. Pour les gens qui vont aller fouiller, comment est-ce que sont gérés, alors s'ils vont aller lire les conditions, etc. Donc au moins, c'est les cons qui vont...
Tu veux qu'on parle du nombre, de la proportion de cons dans la population française et mondiale?
Ouais.
Enfin, surtout française, on va rester dans un même niveau. Évidemment, toi, tu es intelligent, tu es un digital native.
Je suis génération Y. Ouais. On m'appelait tellement de noms récemment.
Mais bon, donc on a vécu avec ça, donc on sait se méfier, on connaît les dangers, on va vérifier, on se méfie. Mais la plupart des gens qui utilisent Facebook, puisque c'est de ça dont on parle, ils savent pas. Ils foutent leurs photos, ils foutent leur numéro de téléphone, ils se posent pas la question de qui récupère ces données, etc. Faut bien se rendre compte que pour tous les fichiers, toutes les bases de données que les gens responsables ont, donc on va dire les flics, on va dire les fournisseurs d'accès à Internet, là-dessus, derrière, il y a des gens normaux. Et on connaît tous un mec qui connaît un pote, qui connaît un flic ou qui connaît un gars d'un FAI. Si jamais t'as besoin de récupérer le numéro de téléphone d'un mec qui t'a fait chier sur l'autoroute pour aller lui péter la gueule, c'est possible. En tout cas, c'est pas impossible parce que derrière il y a des humains. C'est pas la base de données qui est un problème. C'est pas le fait que le gouvernement est un problème. C'est que le fait qu'il y a des humains normaux qui sont capables d'accéder à ces bases de données.
Ouais, oui, mais ça, c'est le système qui normalement devrait demander que tous les accès soient logués. Il y a aussi,
avec plus de sécurité, plus de fichage encore.
Tu mets une caméra devant le PC où tu peux récupérer
les fichiers des immatriculations des flics sont logués. Mais,
oui, mais ils utilisent
tu te fais crever tes pneus. Mais, est-ce que tu vas te dire, ah bah ça se trouve, c'est peut-être un mec qui a récupéré mon adresse à cause d'une connerie que j'ai fait sur la
route. Tout à fait. Et puis, quand tu logues tout, il y a après la question de pouvoir traiter ce flux de données, le flux de données des caméras, le flux de données des accès à ta base de données, etc. Ce qui fait que ces bases de données vont être très utiles aux gens qui cherchent une information spécifique, mais en termes de fichage global et en fait en termes de sécurité, c'est-à-dire leur but officiel, c'est un peu ce que disait Krilin tout à l'heure, elles sont assez inefficaces. Finalement, il y a que les aspects négatifs et pas trop les aspects
surtout
positifs.
La CNIL montrait que sur les fichiers de police, il y avait 83% d'informations obsolètes.
Ouais, ou fausses.
Ou fausses, ou c'est juste complètement hallucinant. Ça a que des désavantages
Les victimes sont entrées dans la case suspect ou ce genre de choses.
Des erreurs de manipulation, des homonymes, etc. Ouais. Et surtout
c'est le coup de ce député socialiste ou qui avait été accusé par un député UMP d'avoir fait de la prison, un truc comme ça, alors qu'il s'était gouré.
Puis on s'est soucié que les flics, ils vont utiliser, vu que tout le monde a oublié son mot de passe et qu'on se souvient du mot de passe qui est bateau de un tel, tout le monde va l'utiliser pour se loguer le même compte. Et donc au final, quand il y a le jour où il y aura une enquête pour un truc grave, on pourra jamais prouver qui c'était, etc. Donc il y a toujours l'erreur humaine qui de toute façon est présent. La deuxième raison pour sacrifier un peu de cette vie privée et de sa liberté, donc pour revenir sur Facebook et ce genre de choses, c'est pas forcément pour la sécurité, mais c'est pour la praticité. Maintenant, avec les technologies, en gros, Facebook, c'est ça. Moi, je sacrifie des trucs. C'est pas pour la sécurité, Facebook. C'est pour de la praticité. Pareil, j'autorise, des services de géolocalisation à me localiser, c'est abandonner un peu de ma truc. Le cloud.
Gros problème, la géolocalisation. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a une étude il y avait des questions qui étaient posées à des gens et quand tu en parlais à des adultes, ils disaient c'est trop cool, je vais pouvoir vérifier où mon gamin il est, s'il fait pas de conneries, si on l'a pas enlevé, c'est génial. Et puis quand tu leur dis ah oui, mais peut-être que votre mari ou votre femme va pouvoir vérifier où vous passez votre 5 à 7, là ils disent mais c'est dégueulasse, c'est une intrusion dans ma vie privée, etc.
Et là encore, il y a deux choses. Il y a l'aspect volontaire, à savoir j'installe Foursquare, j'installe Google Latitude, j'installe Facebook Places, Facebook Lieux, ce genre de choses. Où là c'est volontaire et encore là il faut bien comprendre les paramétrages pour être sûr, et il y a tout l'aspect non volontaire, c'est-à-dire de la même manière que les failles log, tous les opérateurs de télécom log toutes tes positions et les sauvegardes.
Et ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que à quoi servent les cookies dans votre navigateur. C'est récupéré par telle boutique pour savoir chez quelle autre boutique vous êtes allé par quel marketing vous pourriez être intéressé. Et la géolocalisation, c'est pareil. Ils vont savoir où vous êtes déplacé, à quel endroit vous êtes et pour quel...
Ça peut se justifier. Il y a deux raisons.
Mais on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui t'imposeront cette publicité, qui sera encore plus ciblée, donc encore plus susceptible de réussir.
Ou de t'intéresser, justement.
ou de t'intéresser.
Soit toi, ça t'arrange parce que ça améliore, c'est pratique pour toi. T'as des services qui fonctionnent, voilà, ça détecte, tiens, j'ai des amis pas loin, je pourrais en profiter pour les rencontrer. Mon téléphone sait que je suis à côté de mon lit et mon téléphone n'a pas bougé, donc ça doit être que je suis en train de dormir, donc ça va m'éteindre automatiquement mon alarme, tout ce genre de trucs, ma sonnerie. Ou le système, plus général, ça permet à une boîte de faire des statistiques qui va permettre d'une manière générale d'améliorer le service, à savoir on log un peu tous les trafics qui se passent parce que pour optimiser le réseau, on fait des statistiques sur nos clients pour pouvoir optimiser le service, la charge. Tiens, les gens ils se connectent à telle heure, telle heure, telle heure, enfin, peut-être qu'on ait plus de trucs. Donc il y a quand même plein de petites raisons à la fois pour nous augmenter la praticité, améliorer les services, etc. Et la frontière est assez floue en fait. Où est-ce qu'on s'arrête pour ça? Mais au moins, tout ça est normalement plutôt volontaire, quoi.
Mais comme d'hab, la frontière, c'est est-ce que quelqu'un va récupérer les données pour en faire quelque chose que tu n'aurais pas voulu. Et puis, le deuxième flou aussi, c'est le feedback, c'est quand quelqu'un te donne une pub, est-ce que ça t'énerve ou est-ce que tu es content de la recevoir, même si tu ne l'aurais pas demandé.
Et il y a aussi le fait que maintenant, on est dans... Enfin, avec la forme... Il y a deux points encore, c'est... L'internationalisation, c'est-à-dire que là, tu es en France, Saône-et-Loire, mais mes informations sont utilisées par Facebook et pas une boîte française. Ou mettons qu'ils mettent leur serveur au Costa Rica, tu n'en auras aucune idée, ce sera dans des conditions générales de vente que tu ne peux pas lire. Ça soulève aussi toute la question de la mondialisation et de la loi sur Internet, encore une fois. Et généralement, nous, on en est plutôt contents quand c'est un peu le bordel. Mais là, c'est un point où c'est assez délicat. Tu as une loi en Europe, en fait, tu as un système mondial qui s'appelle le Safe Harbor, qui est en gros le principe de sphère de sécurité, qui est que pour que des infos puissent être stockées en dehors de la communauté européenne, il faut que la boîte, on a par exemple ça américaine pour Facebook, respecte les mêmes standards et les mêmes lois en matière de sécurité sur les informations que la France.
Mais comment tu fais respecter ?
C'est un accord, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir... mais même en fait, ce n'est pas valable, parce qu'il suffit que... Ça, c'est valable quand une boîte française récolte tes données et veut les transmettre à une boîte américaine. Mais si la boîte est de base une boîte au Nigeria, et par le réseau, elle peut en faire ce qu'elle veut, en fait. Donc, on voit encore que ça a totalement ses limites. Et on peut faire confiance, on peut foutre ses trucs sur plein de réseaux, et en même temps, on ne sait pas où ça va aller. En même temps, on ne sait pas si les législations dans les pays où ça vont évoluer. Donc c'est assez délicat, mais moi je suis prêt au final à sacrifier pas mal de trucs pour la praticité de tous ces services, quoi. Et ça fait limite un peu peur. Rien que la perte de propriété de mes photos sur Facebook, par exemple, ça,
ouais.
ça pose question. C'est pour ça qu'il y a deux d'entre nous qui sont partis de chez Facebook. Il me semble que Xil et Liliane ont quitté Facebook. C'était pour ces raisons-là un peu ou...
Alors moi j'ai dû y retourner pour rendre un devoir à un prof. Il nous demandait de rendre notre devoir sur Facebook.
Envoyé chier, ce mec.
Mais tu vois, super pratique. Mon téléphone, il s'allume, il va aller vérifier tous les numéros de téléphone des gens sur Facebook. Et comme ça, si j'ai oublié de les mettre dans mon répertoire ou si jamais ils ont été modifiés, paf, ça les met à jour dans mon téléphone.
Oui, mais si tu veux pas que n'importe qui ait ton téléphone, juste tes potes, et que tu veux quand même avoir une page Facebook, juste tes potes proches, on va dire.
Oui, mais c'est configurable, tu fais des groupes, etc. Mais ça te prouve pas que dans le futur, peut-être que du jour au lendemain, Facebook changera ses conditions, quelqu'un pourra accéder au truc. Et c'est pour ça que beaucoup de gens essaient de faire des choses décentralisées, quoi. Où tu gardes le contrôle de tes données, mais les autres peuvent se connecter chez toi pour venir les récupérer, par exemple. Pour moi, c'est ça un peu le secret de tout ça. C'est on peut peut-être garder la praticité de tous ces services en faisant des systèmes décentralisés auxquels, au final, il y a moins d'accès centralisé et moins de contrôle de la base de données par une entité, en fait. Mais bon, c'est un peu... Pour beaucoup de services, c'est un peu...
Tiens, j'ai une question par rapport au recul de la liberté, mais c'est une grosse digression, voire ça n'a rien à voir, mais c'est le coût des caméras de sécurité et des lois qui changent a posteriori qui me font penser ça. Le gouvernement, là, est en train de vouloir s'attaquer de plus en plus à la prostitution et notamment veut l'interdire, clairement. Mais comme ils ne peuvent pas interdire la prostitution parce qu'il y aurait des levées de boucliers, ils veulent s'attaquer aux clients. Ce qui est le cas notamment en Suède.
Oui, même en France, c'est le cas souvent.
Actuellement, non, normalement,
non, c'est
que
la question de la pénalisation des clients que veut instaurer Bachelot, je crois.
Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas la seule. Donc en France, pour l'instant, à ma connaissance, la prostitution est légale, c'est juste.
Le racolage et le proxénétisme.
Exactement. Et le proxénétisme. le proxénétisme, ça va très loin, hein, la loi sur le proxénétisme, c'est-à-dire que si ta femme est prostituée, puisqu'elle paye le loyer, donc tu bénéficies de l'argent de sa prostitution, donc tu es un proxénète.
Merde.
Et dans le même, au niveau de la pornographie, tous les gens qui, tous les producteurs de porno, puisqu'il y a des gens qui ont des relations sexuelles devant les caméras, ça peut être considéré comme de la prostitution. Donc, puisqu'ils utilisent l'argent bénéficiant de ça, c'est du proxénétisme.
Ça me rappelle le dernier épisode de Family Guy, il y a un peu ça.
C'était marrant. C'était... Où ils se payent des putes, mais ils mettent une caméra dans la pièce, comme ça, ils peuvent pas être arrêtés. Ouais, les flics font du porno.
Les flics débarquent. C'est proxénétisme. Ah non, c'est un film porno. Regardez, il y a une caméra dans le coin.
Vous en pensez quoi, vous, de ce... C'est à la fois un recul des libertés et surtout une grosse avancée du côté catho-intégriste qui a vachement repris du poil de la bête ces derniers temps.
Alors pour moi, le combattre la prostitution, ça n'a rien à voir avec le catholicisme.
Non, mais c'est les défenseurs des bonnes mœurs et compagnie.
Oui, oui, ce qui n'est pas forcément...
Oui,
c'est un mélange de catholicisme et de féminisme.
Oh là là, féminisme, ah oui, c'est vrai.
D'une forme de féminisme. Donc c'est le féminisme est plutôt de gauche, le catholicisme est plutôt de droite.
Ouais, ces féministes-là n'ont jamais parlé à des prostituées. Quand on voit qu'à l'Assemblée, ils disent « il n'est pas possible de faire de la prostitution par choix », c'est quelque chose qui se discute. Mais dire que c'est pas possible, point barre, c'est quand même... Enfin...
Tout à fait.
Non, pas de réaction, ça. Vous trouvez pas que c'est...
Bah, on est à peu près d'accord avec toi, hein, je pense.
Bon, d'accord.
Mais je
me souviens plus ce que t'as dit. Oui,
moi
fait.
Non plus.
D'accord, génial.
Si, alors, tant qu'on est dans les digressions, moi aussi je voulais rajouter un truc. Tout à l'heure, ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est de l'utilisation positive du gouvernement de telles informations. Il y a eu un grand débat à l'époque de la candidature de Nicolas Sarkozy sur le fait d'autoriser ou pas le recensement sur critères ethniques dans le but de savoir dans quelle mesure les discriminations étaient réelles, dans quelle mesure, etc. Parce c'est vrai que ça peut aussi poser problème de temps en temps de pas pouvoir avoir certaines.
Moi,
certaines
c'est le seul. Infos. Là, c'est ce seul point-là où je suis vraiment partagé en fait.
Moi aussi.
Mais le problème, c'est l'anonymisation. Et ça, on arrive à des degrés où maintenant, on a un tel niveau technologique que l'anonymisation est difficilement possible dans le sens où il y a beaucoup d'études qui ont montré que t'as beau anonymiser les informations, en les recroisant avec toutes les infos pseudo-neutres qu'on avait. T'arrives très facilement à relier les infos en fait. Au final, il n'y a pas 36 000 personnes qui sont nées à telle date, à tel endroit, même si t'as pas le nom, qui sont de. T'arrives à recroiser, donc on arrive à désanonymiser les infos. Et ça, je pense que ça va aller en s'empirant, surtout avec les Facebook, Internet et toutes les capacités de calcul qui augmentent. Donc
si
je suis extrêmement partagé.
Le site 123people.
Oui, tout à fait, qui a été racheté par Page Jaune, je crois.
C'est une horreur ce site. C'est un site qui fait tout le travail de croisement de données à votre place. Vous rentrez le nom de quelqu'un et il va aller vérifier tous les sites genre Facebook, Page Jaune et compagnie pour essayer de récupérer toutes les données sur... Alors si vous appelez Jean Dupont, vous avez de la chance.
Le secret, c'est d'avoir une particule, ça fout la merde.
Ah ouais ?
Ah bah oui, parce que tu sais, quand tu mets trois mots, même dans Google... le 2, il l'enlève, le machin. Enfin, c'est assez pratique. Mais ça, c'est un truc qu'il faut vraiment conseiller à tout le monde. C'est régulièrement.
Avoir une particule. Devenez
tous
nobles.
Non, mais régulièrement, allez checker sur.
Ne fais pas la noblesse, n'inquiète pas.
Allez checker sur Google, allez checker sur 1, 2, 3 people, allez checker sur plein de trucs. Googlez-vous pour vérifier ce qui sort, contrôler, allez supprimer vos vieux comptes, vos machins. Utilisez des adresses pseudo-anonymes quand vous inscrivez à plein de trucs parce que t'as le nom, après tu récupères l'adresse email, tu googlises l'adresse email, puis après le pseudo de chat, après le machin, et au final t'arrives à retrouver une tonne de trucs. Donc
vous
ça, faites un travail.
Combien d'adresses email régulières en plus des adresses poubelles? Moi j'en ai 3.
Non, j'ai même plus d'adresses poubelles.
Depuis qu'il y a Yopmail, il n'y a plus vraiment d'adresses poubelles. Il n'y a plus besoin.
Ah, moi j'ai des adresses. Bah,
Yopmail.com, tu connais pas?
Non.
Quand tu as besoin de t'inscrire un truc, c'est une fausse adresse dont tu peux récupérer les messages. Mais il n'y a pas de. Donc tu peux mettre n'importe quoi à yopmail.com.
Donc c'est www.yopmail.com.
C'était Monsieur Caca qui avait un Yopmail entre autres.
D'accord. Ouais. Ok, bah ça je connaissais pas. Ça peut être.
C'est hyper pratique pour s'inscrire à n'importe quoi.
D'accord, bah ça c'est une très très bonne info. Donc en même temps, il y a les armes aussi des utilisateurs qui petit à petit, mais ceux qui sont informés, qui ont un peu l'habitude, qui s'améliorent, mais l'ethnicité pour les statistiques, pareil, là je t'avoue que ça, je suis très partagé. Je serais plutôt pour, mais j'ai peur que ça puisse dériver, quoi.
C'est comme le débat sur la discrimination positive, hein, bonne chose ou pas.
En fait, je pensais juste à un truc, mais je sais pas si on a le temps ou je peux lancer la question ou pas.
Vas-y.
Ouais. En fait, là, vous êtes en train de discuter sur le fait de cacher ou pas ces informations, en gros, pour pas qu'on les récupère, donc rester anonyme, etc. Il y a un mec qui, je me souviens plus de son nom, il a eu un gros problème en rentrant en Amérique, donc chez lui. Ils l'ont pris pour quelqu'un d'autre. Il a passé un enfer pendant 6 mois où il devait prouver qu'il était, que c'était pas un terroriste, machin. Et après cette aventure-là, en fait, partout il, enfin, quel que soit, enfin, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il postait tout en fait sur Twitter et sur un blog. Non, Twitter existait peut-être pas. Enfin, sur un blog en tout cas. Et on avait accès à ces informations tout le temps, enfin surtout. Donc, est-ce que ce flux d'informations que les gens sur Facebook donnent régulièrement, ça aide pas finalement aussi à anonymiser les gens, parce que ouais, t'as tellement d'informations en fait finalement que
je pensais pas que ça allait être ta conclusion.
Je
vais dire ce que
en gros le gars disait, bon bah puisque la CIA arrêtait pas de me faire chier en me demandant tout ce que je faisais après cette histoire, j'ai décidé de faire un site comme ça. À force de tout donner, je redevenais anonyme. Personnellement, moi j'ai pas trouvé cette démonstration concluante.
Et toutes les technologies vont prouver le contraire. Enfin, surtout avec tous les systèmes actuels. Par contre, là où je pensais où tu allais conclure vers là, c'est l'aspect positif de... On a parlé comment devenir anonyme et ne pas être identifié sur tout ce qu'on fait, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se créer une identité sur Internet. Il faut contrôler, il faut montrer ce qu'on a envie de montrer. À savoir que, moi je suis désolé, mais quand on tape ton nom sur Internet, il faut que la première page qui sorte soit que des trucs que tu aies contrôlés, et qui impose, pour pas qu'il puisse avoir d'usurpation et pour que les gens puissent avoir des informations sur toi, il faut à la fois se protéger, à la fois se créer l'identité qu'on a envie d'avoir, qui est ton identité officielle. Il faut par exemple, les gens qui n'ont pas de compte Facebook, je trouve ça con. La meilleure idée, c'est d'avoir ton compte avec ta photo, avec marqué « tu peux pas m'ajouter comme ami, mais tu peux me contacter », être présent partout, mais de manière totalement verrouillée, c'est-à-dire que tu n'utilises pas le service, seulement les gens peuvent te contacter et ton nom est déposé avec ta photo, t'as ton compte officiel dans tous tes services, il ne peut pas y avoir d'usurpation de ton identité. Si les gens qui vont jamais sur le net ou qui disent je veux utiliser aucun de ces services, il leur arrive toujours des merdes parce qu'un con qui les aime pas va créer leur compte LinkedIn, leur compte Viadeo, va mettre des saloperies là-dessus, ça leur pourrit leur carrière professionnelle, va faire des faux comptes Facebook. C'est autant une protection de devenir pas anonyme mais de protéger sa vie privée que de aussi avoir une identité publique, et ça peut sortir d'un problème quand on a des usurpations comme tu le disais. Mais après par contre, le penchant de dire je vais tout divulguer pour être sûr, ça par contre je pense qu'il y a un équilibre à trouver quand même.
Je pense que je vais tout divulguer pour devenir anonyme, théoriquement parlant ça pourrait marcher si jamais il n'y avait pas des technos de croisement de données qui automatisent ce genre de trucs.
Et puis la réponse c'est plutôt dire de la merde au lieu de tout dire. Je crois plus à dire, donner des fausses informations, par exemple quand tu remplis tes formulaires de site, oui il faut donner de mauvaises informations. Et pas tout dire. Tu vas casser le système pas en donnant trop d'informations, mais en donnant beaucoup de fausses, plutôt.
Oui, tout à fait.
Voilà. Le dernier point, c'est sur le droit à l'oubli, dont on a pas mal entendu parler. Je crois que c'était Kossuth Komorizé, et puis il y a quand même pas mal de... Au niveau politique, on en a entendu pas mal parler ces derniers temps. Je sais pas ce qu'on en pense, on va commencer peut-être par Krilin.
Ouais. Je pense que Xil voulait parler de... Enfin, je sais pas, tu veux raconter l'anecdote américaine ou...
Alors, l'anecdote américaine, c'est relativement simple. C'est une nana qui s'est engueulée, je pense, avec des gens de...
Ouais, elle a fait sa conne sur YouTube. Je suis la plus belle, vous
voilà.
Êtes les connes.
Et 4chan a débarqué.
Et elle s'est engueulée avec des gens de 4chan qui l'ont pourri sur Internet... méchamment et on a eu droit à une seconde vidéo en larmes avec son père intervenant. Ah, et
pour moi, ça n'a rien à voir avec le droit à l'oubli.
Non, mais ça, c'est le début. C'est déjà le fait que les informations aient passé, qu'il y ait 4chan qui s'y soit mis, qu'ils aient récupéré, réussi en croisant les données à récupérer son adresse, son numéro de téléphone, etc. Ils ont commencé à la harceler. Apparemment, est-ce que c'était vrai ou pas, il y avait des mecs qui rôdaient dans le voisinage et compagnie. Donc ça, c'est déjà la première partie. Le fait que le croisement de données, c'est dangereux. Mais là où le droit à l'oubli intervient, c'est que maintenant, les vidéos de elle, la première où elle se fout, enfin où elle est à tuer, et la deuxième où elle est en larmes, sont à jamais sur internet. De même que c'est facile de récupérer les données comme toute sa mésaventure, son numéro de téléphone et ce genre de choses. La seule solution qu'ils ont finalement, c'est déménager et changer de nom.
À moins qu'elle change beaucoup physiquement. Enfin, elle a encore 4-5 années pendant lesquelles elle sera parfaitement identifiable. Et où ça...
Et aux États-Unis, elle est totalement connue.
Mais ce qui est difficile, c'est qu'en même temps, on a envie de savoir, de savoir où sont toutes les informations sur soi sur Internet. Donc, il faut qu'elles soient taguées d'une manière pour qu'on puisse les trouver pour pouvoir les détruire. Donc, ça pose le second problème de... Normalement, elle aurait dû pouvoir décider... de contacter YouTube pour supprimer partout où la vidéo apparaissait, etc. Donc il y a le problème de la modération et de pouvoir avoir accès et détruire les informations, sauf que je pense que c'est comme quand tu postes sur Facebook, une fois que tu l'as posté, ça ne t'appartient plus. Et il y a aussi l'aspect de, si tu tags tous tes trucs pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils sont et les détruire, et ça permet aux autres aussi de les retrouver plus facilement, quoi.
Et en l'occurrence, dans son cas, il y a même une question vachement pratique, c'est que même en partant du principe qu'elle ait le droit légal de supprimer toutes les vidéos, à partir du moment où ça s'est diffusé largement sur Internet, les vidéos existeront toujours. Tant qu'il y aura des personnes pour trouver ça rigolo et avoir envie de les poster, elles seront postées.
Le seul système, c'est là où techniquement j'ai aucune idée de comment ça peut se faire. Beaucoup de politiques ne connaissant pas l'informatique émettent cette idée qui en théorie est super bonne, c'est savoir c'est les fichiers qui perdent en qualité dans le temps ou se détruisent dans le temps. Ça se fait souvent en géolocalisation, c'est-à-dire que généralement, pour les statistiques notamment, tu sauvegardes quelque chose de très précis et puis dans le temps, elle sera un peu dépréciée par un programme informatique, mais un fichier, une vidéo, etc. Ce serait génial
si
que tout ce qu'on...
Si tu veux le garder, tout le monde... Enfin, tu peux toujours le faire.
Ouais, oui, mais ce serait génial si on trouvait une solution technique qui est, je poste un truc sur Internet avec dedans, je dis que c'est comme un certificat. Ça a une date de destruction. Par exemple, ma photo a 10 ans de validité. Oui, Xil?
Soit, ça peut... Peut-être que tu posteras des fichiers destructibles, mais tu pourras jamais empêcher qu'un mec avec un caméscope de refilmer ton écran
oui,
d'ordinateur...
Non, mais attends, j'ai pas dit ça d'un point de vue technique, parce que je sais très bien que c'est extrêmement complexe. Mais pour moi, c'est la solution idéale. Moi, ce que j'adorerais, c'est que je mets une photo sur Facebook et je mets, sa durée de validité, c'est 5 ans. Et comme ça, je suis sûr que n'importe quelle façon qu'elle sera copiée, elle sera détruite. Mais c'est pas possible, on est tout à fait d'accord.
Un, je pense que c'est pas possible techniquement. Deux, si jamais c'était possible techniquement, ça aurait des implications négatives qui seraient monstrueuses. Enfin, je veux dire, ce serait la fin pure et simple du piratage, par exemple.
iTunes sauterait tout de suite dessus pour te vendre des MP3 qui seraient morts au bout de 2 ans. Là, il serait super.
Ouais, est-ce que le droit à l'oubli est une atteinte au devoir de mémoire ou à l'histoire aussi?
Oui, non.
Je vais un peu loin.
Non, mais je suis d'accord. Disons que le pauvre mec, hier, il y avait un reportage sur la milice pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la milice française. La plupart des mecs, au début, ils sont rentrés là parce que c'était la suite logique du scoutisme, un truc qui respectait bien le... Bon, quand ils ont commencé à tirer au fusil d'assaut, enfin c'était pas des fusils d'assaut, mais quand ils ont commencé à tirer à l'arme automatique, ils se sont pas trop posé de questions, c'était en temps de guerre. Et la plupart des miliciens de l'époque n'ont sans doute pas fait grand-chose contre la France, et encore moins pour la solution finale. Mais mine de rien, il y en a, parmi les gradés notamment, qui ont été... impliqués là-dedans. La grande question du droit à l'oubli, c'est ça. Est-ce que ces gens-là qui, au final, ont juste été au mauvais endroit, au mauvais moment, ont fait des mauvais choix mais n'ont pas fait de mal, est-ce qu'on doit encore les poursuivre aujourd'hui ? Sur Wikipédia...
Oui, mais là, c'est pas une question de... Enfin, pour ça, il faut faire une enquête et pour ça, il faut avoir les documents.
Oui, mais justement, donc... sur Wikipédia, il y a des mecs qui sont spécialisés pour récupérer tous les mecs qu'ils accusent de nazis, de collabos et compagnie, juste parce que c'est un mec qui, à un moment, a publié un article qui n'avait rien à voir dans Je suis partout, ce genre de choses. Au bout d'un moment, même si l'enquête a dit que... parce qu'il y a eu, des enquêtes à l'époque, après à la Libération, l'enquête a dit que, bon, bah voilà, il était accusé de rien, mais eux considèrent que... ils se font au-delà de la justice, tu vois. Ils considèrent que, bon, bah, quand même si l'enquête a dit que...
Ah bah, il n'y a pas de fumée sans feu, Madame Chambier. Hein.
Exactement, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, on va écrire sur sa page Wikipédia que c'était un collabo.
En plus, c'est homosexuel.
S'il est en Amérique du Sud, même... il n'est pas en Allemagne.
Il y a quand même un problème de degré. Enfin, je veux dire... En ce qui me concerne, en tout cas, tout ce qui va être collabo, nazi, etc., je pense que tu peux faire des enquêtes dessus. Et après, tu t'examines au cas par cas, est-ce que ça vaut la peine que machin, que ce soit publié ou pas. Mais c'est différent, enfin, le droit à l'oubli, c'est différent du mec, enfin, ça concerne plutôt le mec qui était en fait.
Tu le sais qu'a posteriori.
Tu le sais qu'à posteriori, mais ça, pour moi, ça, t'as une légitimité à enquêter dessus. Mais le droit à l'oubli, ça concerne plutôt des gens qui ont fait la fête jusqu'à 2h du mat, qui se sont retrouvés en slip léopard devant le commissariat.
Tu peux pas le savoir à l'avance. Soit tu décides dès le début que la photo, par exemple, elle sera autodétruite dans 10 ans, tu donnes ce droit à tout le monde parce que tu veux pas savoir est-ce que le mec c'est un nazi ou pas. Et enfin, en gros, c'est des documents anodins qui généralement dans ces enquêtes prouvent que il était là à tel moment, il connaissait un tel, des documents où ils étaient en train de faire la fête en 39 avec machin, qui prouvent qu'il était là, qu'il connaissait un tel et qu'en fait il a. Enfin, tu peux pas facilement séparer de. Soit t'as les documents et t'as pas les documents, soit tu peux faire l'enquête et pas l'enquête, quelle que soit l'issue de l'enquête, quoi.
Xil.
Moi, personnellement...
J'ai pas tout compris à ce que t'as dit, c'est pour ça que je réponds pas.
C'était
mais...
fait exprès.
Certaines informations n'ont pas vraiment de rapport avec un éventuel crime, mais permettent de l'établir et donc sont utiles dans l'enquête. Et certaines informations, on peut pas savoir avant qu'il ait été établi qu'il y avait eu une erreur, ou un crime ou un délit. Tu peux pas savoir qu'elles sont le droit à l'oubli.
Pour les crimes nazis, c'est rarement une photo du mec qui est en train de tirer sur le mec, quoi. C'est toujours des photos, des documents anodins qui, mis ensemble et avec des informations plus larges, permettent de prouver que. Et pour toi, si tu jamais t'avais pas ces informations, tu considérais que bah non, mais ces photos-là, c'est des photos de soirée. Le mec maintenant qu'il est vieux, il faudrait pas que ses enfants voient ça, donc détruisons-les.
Et le droit à l'oubli, c'est pas seulement pour le mec qui s'est murgé. C'est aussi pour le mec qui a été accusé, éventuellement blanchi.
Ou même condamné, je suis désolé, condamné. T'as été condamné, t'as servi
oui,
ton
c'est
temps.
Oui, c'est vrai,
c'est
vrai.
C'est pas normal que, ad vitam aeternam, sur Internet, tu sois considéré à vie comme... Il y a un droit à l'oubli pour les condamnés aussi.
D'ailleurs, on parle souvent des multirécidivistes. Je te donne la parole dans deux secondes. On parle souvent des multirécidivistes en termes de crimes sexuels. Il ne faut pas oublier que 95% des délinquants sexuels ne récidivent pas. Et par contre, c'est vrai que une très grosse part des gens qui récidiveront plusieurs fois. Mais en tout cas, faut pas la castration chimique au premier coup, c'est du délire. Faut pas oublier que le mec, il a fait une connerie, mais dans 95% des cas, 40 ans plus tard, il aura jamais rien refait. Et donc, en effet, là, il y a...
Et dans 40% des cas, de toute façon, c'est un mec de la famille.
Oui.
Oui, Xil, tu voulais donner une précision.
Non, je voulais pas donner une précision, je voulais me lancer dans un long speech. Alors, il y a... il y a plusieurs trucs. En gros, je pense que déjà, techniquement parlant, mettre en place le droit à l'oubli, on le voit bien, serait très difficile sans entrer dans un système techniquement difficilement envisageable et en plus qui aurait des implications hyper néfastes, Adopi Empire, tout ce que tu veux, d'une base de totalitarisme bien achevée. Après, pour moi, la solution pour ce qui est de du mec qui est en train de faire la fête, qui se murge et qui poste ses photos sur Internet, c'est malheureusement de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut informer ces gens et leur dire que potentiellement en train de vomir sur
c'est pas forcément lui qui l'a posté.
Voilà, c'est
tout,
ça.
Non mais peu importe, tout le monde est un jeune con, tout le monde a le droit d'être un jeune con et d'ensuite de ne plus l'être.
Oui, alors laisse-moi terminer ma phrase. C'est de la pédagogie, donc déjà du côté du jeune con, et c'est aussi de la pédagogie
dont je fais partie.
Oui, dont on fait tous partie, et c'est aussi de la pédagogie de l'autre côté, du côté des gens qui vont voir les photos du jeune con. C'est-à-dire que il faut.
Tu veux changer la nature humaine là.
Tu veux changer les jeunes cons et les vieux cons. T'es quand même vachement.
Voilà, je veux changer les jeunes cons et les vieux cons. Oui, mais d'un autre côté, ça va un petit peu se faire tout seul avec la multiplication des photos de gens en train de dégueuler sur la façade. Ça va devenir quelque chose d'assez banal et.
Moi, je suis toujours aussi voyeur hein, sur Facebook. Pas du dégueulis, mais.
On va considérer ça naturellement comme moins important. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'éducation, à la fois pour savoir que ce que tu diffuses. Tu le diffuses de manière publique, malheureusement, et pour savoir que faut accepter de prendre, d'employer un mec qui s'est amusé à repeindre la façade.
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que, de toute façon, en informatique, de manière générale, il manque une éducation, il manque une pédagogie, et que là-dessus, il y a énormément de choses à apprendre pour tout le monde dans le domaine de la vie privée, de la sécurité, d'énormément de choses.
Je pense qu'on va conclure sur le fait que, de toute façon, le droit à l'oubli, c'est comme la lutte contre le piratage. C'est quelque chose qui, dans l'idéal, est bon, mais qui est impossible à implémenter. Oh, attends, on va pas. Non.
Ce sera le sujet d'un futur débat, car bientôt nous parlerons piratage, industrie musicale et compagnie, dans un des prochains épisodes. Un dernier mot, Xil ?
Non, c'est.
D'accord, ne lève pas la main la prochaine fois.
Je suis en train de me gratter.
Mais t'es en train de se gratter. Merci, Xil. Nous, c'est comme à l'école, on lève la main. Et donc on va lui retransmettre la parole pour sa rubrique Exil.
Et qu'est-ce que le web 2.0 ?
Le web 2.0, c'est tout simplement l'Internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sur quoi surfent tous les Français, moi comme les autres.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire Internet d'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire ?
Le peer-to-peer,
Oui, bien sûr.
Alors expliquez-le.
Le peer-to-peer, c'est tout simplement pouvoir s'adresser en direct et par toutes les technologies numériques à des personnes qui sont dans la même situation que vous. Hein? Donc c'est quelque chose de très positif et qu'il faut encourager.
Aujourd'hui, je vais vous parler de podcast. J'écoute à peu près une. J'ai regardé ma liste iTunes, je suis abonné à 90 podcasts.
Oh putain !
dont une soixantaine que j'écoute à peu près systématiquement, surtout des trucs très courts.
D'accord.
Donc j'ai décidé d'en choisir 5, pas vous parler de tous, sinon c'était un peu trop long.
C'est une émission juste là-dessus. En fait.
Voilà. Micha a fait le premier épisode d'ailleurs, la dernière fois, en parlant de podcast anglophone. Et on va essayer peut-être chacun son tour de faire.
Voilà, ça va être un peu ça. Et j'ai pas choisi forcément les meilleurs. J'ai essayé de faire une sélection brassée, diversifiée et intéressante, histoire d'en garder pour la suite, que les 5 prochains soient pas les un peu moins bons.
Et j'ai quand même choisi dans les meilleurs. 90.
Voilà, tout à fait. non, j'en ai choisi, disons, une vingtaine, 4 émissions. Alors, je vais aller du moins geek au plus geek. Donc je vais commencer par parler d'une émission qui s'appelle Géopolitis. Donc à la base, diffusé chez mes compatriotes suisses de la télévision suisse romande. Oui.
Tout à fait,
on a
bons
beaucoup
trucs.
Parlé nazis aujourd'hui.
Et au passage, je tenais à dire que TSR diffuse des émissions et donc des podcasts très intéressants. N'hésitez pas à aller, à aller jeter un œil. Ils ont plein de trucs intéressants, dont Géopolitis. Géopolitis, c'est une sorte de dessous des cartes suisse. Le dessous des cartes, c'était une émission d'Arte très pédagogique avec beaucoup de cartes, justement, qui parlait de géopolitique. Donc là, c'est pareil. Généralement, ils commencent par présenter tout un tas de cartes sur un sujet. Je sais pas, la dernière fois c'était sur la tuberculose, mais ça peut être les régimes du monde arabe, ça peut être bon, plein de sujets politiques et géopolitiques. Ils enchaînent avec une interview et une conclusion. L'émission est de très bonne qualité, ça dure 15 minutes, c'est hebdomadaire et je vous incite tous à aller jeter un œil. Alors je sais pas s'il y a du monde qui connaît, non, pas trop.
Non, mais par contre, je tiens à souligner, maintenant que les gens consomment vachement de podcasts, profitez-en pour aller voir dans d'autres pays, quoi. Il y a la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis. Enfin, on peut voir plein de trucs en anglais. Moi, le meilleur reportage sur Wikileaks que j'ai vu, par exemple, c'était un reportage suédois. Donc profitez-en, faites-vous vos podcasts et oui, à l'étranger.
Ils peuvent essayer de se rattraper, eux.
Oui, continue.
Alors, j'enchaîne sur le deuxième de ma liste, « Demandez le journal ». Alors ça, c'est sur France Inter, ça dure 3-4 minutes, c'est à peu près une quotidienne.
C'est une revue de presse.
Non, c'est pas une revue de presse, c'est à chaque fois un éditorialiste d'un journal qui vient faire son édito politique. Ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle je l'ai sélectionné, c'est que ça permet d'avoir une certaine diversité de points de vue. C'est-à-dire que vous alternez entre... Alors, il y a un mec de Valeurs Actuelles, donc facho, en gros, qui vient régulièrement. Il y a Piotr Smolar du Monde. Il y a
Anna... joli prêt, joli nom.
Ça fait le nom d'un tueur dans un bouquin noir.
Il y a Anna Cabana du Point, donc qui est, on va dire, vaguement...
danseur brésilien. C'est une sacrée équipe, toi.
Vaguement vilpiniste. Je sais plus comment elle s'appelle.
Ah, c'est juste... Okay, vaguement.
Je sais plus comment
mieux.
S'appelle celui du Nouvel Obs, François Bazin, voilà, je l'avais noté. C'est sympa et ça permet d'avoir des éditos politiques variés, quoi, de pas se limiter à un point de vue. Alors, bien évidemment, j'espère que... vous ne serez pas à fond derrière Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles, mais bon, voilà.
Vous avez le droit. Hein. Après, le droit à l'oubli, le droit d'être con.
Tout à fait. Bon, pareil, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît.
Non, mais je pense que c'est plus quand tu vas aller dans les trucs un peu plus geek. Moi, j'écoute surtout des podcasts très longs. Donc...
Ouais, tu peux y aller, j'en connaîtrai aucun, c'est sûr.
Alors, je continue et j'enchaîne avec un podcast que j'adore vraiment beaucoup. C'est sans doute mon podcast préféré.
J'ai peur.
C'est le podcast
Basingcast.
De... Oui, alors, après Basingcast, bien sûr. C'est le podcast de Marc Fiorentino sur BFM.
Ah, BFM.
Donc, BFM, c'est une radio éco. Et il y a Marc Fiorentino, qui est un économiste, qui...
ouais. Pas écologiste, hein. Clairement pas.
Clairement pas. Qui présente un podcast hyper court de 2-3 minutes. C'est une quotidienne. C'est...
Avec
super...
Zil, c'est l'éjaculation précoce des podcasts.
Voilà. C'est super intéressant, dans le sens où c'est vachement pédagogique. Enfin, ça dépend des épisodes, mais ça peut être assez pédagogique. C'est un mec qui s'engage et qui fait tout un tas de prévisions économiques qui sont intéressantes. De mon point de vue, il avait assez bien prédit la crise des subprimes. Il avait très bien prédit la crise de la dette des États. Il a des avis sur des sujets qui sont souvent géopolitique, il a une analyse qui est intéressante où assez souvent il explique que contrairement à ce qui a été dit dans la presse, absolument rien de concret n'a été décidé à je ne sais quel G20, où il fait une lecture économique des décisions politiques. C'est très intéressant. C'est un mec qui est authentiquement libéral, mais libéral façon Madelin, pas libéral façon Sarkozy.
Madelin, grand homme aussi.
Assez souvent, je pense que des gens de gauche, voire très à gauche, pourront être assez souvent d'accord avec lui. Ça paraît assez étrange. Il a une vision très critique du libéralisme tel qu'il est pratiqué, tout en étant fondamentalement libéral. C'est très intéressant.
Et ben ça, ça
s'appelle avoir du recul.
Voilà,
c'est,
mais
c'est
ça s'appelle...
quelque chose que 90% de la population française n'a pas.
N'a absolument pas. Voilà, et puis en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que le...
pour les Américains, c'est...
ouais. L'échange entre lui et le présentateur est très bien fait. Alors, je sais pas si c'est préparé, si c'est des catchphrases ou pas, mais en tout cas, ça passe très bien. Souvent, ils sont pas d'accord, ils s'engueulent, et t'as vraiment l'impression qu'ils s'engueulent et qu'il y a deux points de vue qui s'affrontent. Et c'est super intéressant. Ce podcast suivant, j'imagine que personne connaît.
Non, mais c'est, je cherchais. Enfin, c'est vrai que ça me manque un peu en fait. C'est...
Il est dans le top 10 éco d'iTunes. Il a longtemps été numéro 1. Donc c'est
top 10.
C'est. Oh. C'est
la loose de plus être numéro 1 pour un libéral.
Donc,
loin derrière Bazinga surtout.
C'est quelque chose d'assez connu. Voilà, n'hésitez pas à l'écouter. Ce podcast suivant, alors là je vais passer dans l'humour et on va passer à Sophia Aram.
franceinter.com. Alors ouais,
je pense qu'il y a du monde qui connaît.
Alors moi je la connais, mais je ne connais pas son podcast. Enfin, je connais sa chronique à l'époque quand elle faisait, quand j'écoutais encore le Fou du Roi.
Ah, elle était déjà au Fou du Roi.
C'était au Fou du Roi. Ouais, c'était au Fou du Roi qu'elle faisait des trucs.
Alors, je l'ai jamais écouté au Fou du Roi.
Donc, ça se trouve, c'est pas la. Vas-y, j'attends.
Sophia Aram, c'est. Oui, elle bosse pas mal. Elle remplace Guillon et Didier Porte, qui se sont fait virer de France Inter, dans la matinale.
C'est vrai, j'en ai jamais entendu parler.
Bah oui, mais c'est tellement 2010.
Non, mais depuis. Attends, depuis moi, je n'écoute plus, quoi. Surtout que l'autre, là, le présentateur que j'adorais. Il n'y est plus.
Les autres humoristes.
Il est un peu devenu de droite aussi.
Oui, il est un peu devenu de droite aussi.
Ouais, passé, ça va pas pour me gêner, ça.
Bon, bref. Les autres humoristes qui ont remplacé Porte et Guillon sont assez mauvais, à l'exception du mec des Deschiens qui est
Morel.
Morel qui est toujours
qui,
là.
Qui d'ailleurs est devenu vachement plus incisif maintenant, je trouve.
Ouais, qui est devenu vachement plus incisif.
En compensant, c'est hallucinant. Avant, c'était un peu cucu. Maintenant, c'est
super bon.
Tu sentais dès le début qu'il
avait envie.
Pas moins.
Ouais, mais là, je trouve qu'il est très très bon. Donc, écoutez pareil le podcast de François Morel, c'est très bon.
Sophia Aram n'est pas constante. Elle propose du très très bon comme du assez médiocre, mais elle a l'avantage de se renouveler et de changer pas mal. De temps en temps, elle fait des imitations, de temps en temps.
Je me souviens de ses imitations.
Elle n'est pas très bonne dans les imitations,
voilà, c'était souvent très mauvais.
Bon, elle est très bonne en gros quand elle s'attaque au mec du FN ou au conseiller de Nicolas Sarkozy. Elle a été très bonne.
Ce qui est facile, quoi.
Ce qui est assez facile, mais elle est vraiment bonne.
Tout
elle a été très,
pas,
elle a été très bonne face à Jean-Marie Le Pen quand Jean-Marie Le Pen était interviewé dans la matinale de France Inter.
Est-ce que c'est
elle
comme
a
avec
été très
Guillon
bonne face à Marine Le Pen.
Justement, quand tu dis face à, est-ce que c'est comme avec Guillon où c'est séparé ou
non,
est-ce
non,
qu'ils sont
c'est
vraiment
face
ensemble
à.
D'accord.
Okay. C'est t'as Marine Le Pen qui parle pendant la chronique de Sophia Aram.
D'accord, ça c'est intéressant.
Donc c'est et elle est bonne. Elle a de la niaque, etc. Et elle a aussi.
Ouais, et puis avoir de la niaque avec.
Elle a aussi été très bonne récemment dans son attaque contre les électeurs du FN, où elle les a gentiment traités de gros cons. Et je trouve que c'était à la fois drôle
et justifié.
Assez justifié.
Alors, pour essayer de comprendre, j'ai écouté tous les commentaires. J'ai retenu une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord. Il faudrait arrêter de culpabiliser les personnes qui votent Front National. Il faudrait cesser le genre de raccourci qui consiste à dire que ce ne sont que des gros cons, par exemple. Non, ce qui ne sert à rien et stigmatise une partie des Français. On nous explique que ce sont des gens malheureux. Ils sont tristes et quand ils sont tristes, eh ben, ils n'ont pas les idées au clair. Du coup, ils votent Le Pen pour manifester leur chagrin. Ensuite, il y a ceux qui sont en colère. Et la colère, ça ne rend pas forcément intelligent. Du coup, ils votent Le Pen pour exprimer leur colère. Ensuite, il y a les gens qui ont peur. Et comme ils ont peur, ils ne réfléchissent pas beaucoup et c'est pour ça qu'ils votent Le Pen. C'est pour appeler au secours. Bon, j'étais prête à me ranger derrière toutes ces explications et puis j'ai décidé d'écouter ces philosophes qui expriment leur colère.
La France, ça paye maintenant. Voilà, voilà. Fallait pas les faire venir. Et regardez en Italie qu'ils arrivent là-bas sur les bateaux et tout. Les Polonais, c'est pareil, les Polonais. On a une femme de ménage, nous. Hein ? Elle fait 2 heures par jour. Mais ça n'empêche pas qu'elle part 2 mois au Portugal en vacances. Ah bah exactement, j'ai pris tout le boulot. Et voilà, et voilà. Moi c'est Le Pen, moi c'est à 100% Le Pen.
Moi aussi, hein.
Ah bah oui, bah oui. On était trop cons et puis c'est tout.
Bon.
C'est pas un sketch, hein. Ce
non,
sont
non,
de
c'est
vrais
un
gens,
vrai monsieur.
Comme on dit.
C'est un vrai philosophe. On est d'accord, hein, même si on n'a plus le droit de dire que ce sont des gros cons, c'est quand même pas mal imité, non?
Bon, par contre, elle a été très mauvaise dans sa défense face à Guy Carlier, qui l'a traité suite à sa chronique de petite conne. Guy Carlier, qui maintenant défend le FN. Enfin bon.
D'accord. Bref. Non, mais attends, tu simplifies.
Je simplifie beaucoup les choses,
Carlier,
mais j'aime Sophie Aram et j'aime pas Guy Carlier.
Oui, non, moi non plus, je supporte pas Carlier. Et puis, faut quand même avouer que Carlier avait un argument qui était juste concernant les électeurs du FN, qui est aujourd'hui un parti beaucoup plus complexe qu'il ne l'était il y a 15-20 ans, et qui attire des gens de d'horizons différents. Et bon, même si Carlier est un gros monstre hideux qui n'aurait jamais dû la traiter de petite conne, c'était indécent. Par contre, j'ai beaucoup aimé comment Sophie Aram lui a fait remarquer que il y a 10 ans, il avait la même. Il disait la même chose, mais que c'est vrai qu'à l'époque, il était sur le service public.
Sur le service, ouais.
Et d'ailleurs, il est à la même radio que Demorand, je crois, c'est Europe 1.
Oui, mais c'était la seule partie rigolote de sa dernière chronique, pour le coup, à Sophie Aram. Mais. Bon, en bref, oui, ce que disait pour moi Sophie Aram dans sa chronique, elle avait aussi raison, et à mon avis plus que Carlier, mais c'est vrai que ce que tu présentes de Carlier est vrai, c'est que on a de plus en plus considéré qu'il fallait considérer les électeurs du FN comme des victimes. On a été chaleureux avec eux, on a évité de les stigmatiser, etc. Et ce à quoi ça aboutit, c'est Marine Le Pen à N% à deux chiffres dans les sondages. Donc c'était sûrement pas la bonne stratégie. Bon,
oui, mais
bref.
En même temps, j'ai ouvert un article juste avant de partir du boulot, j'ai pas eu le temps de le lire, sur pourquoi est-ce qu'on stigmatise tant le FN. C'est vrai, au final, ok, on leur prête des intentions mauvaises, mais au final, on n'a rien à leur reprocher.
On les stigmatise pour ne pas les faire monter dans l'opinion, parce que l'opinion est quelque chose qui se forge, et tu peux tout à fait, avec des gens tout à fait normaux, avoir 40% de nazis. C'est pas que les Allemands avaient un problème, c'est qu'en communiquant, tu arrives à convaincre la population,
en
même de choses...
Peurs, oui, voilà. À donner des occasions...
Même de choses mauvaises. Donc la stigmatisation, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise solution.
Mais pourquoi est-ce que le FN de Marine Le Pen, qui rejette quand même violemment le FN de Gollnisch, qui lui est plutôt...
Entre le FN de Gollnisch et le FN de Marine Le Pen, savoir lequel des deux est le pire, à mon avis, c'est pas forcément si dit que ça. Enfin, moi, personnellement, je dirais c'est celui de Marine Le Pen.
Et puis, il y a la notion de pire.
Voilà,
le pire étant ce qui peut arriver, pas forcément le pire dans la théorie. À savoir, je préfère un mec qui est totalement scandaleux et qui exprime vraiment ce qu'il pense. Mais on sait le résultat qu'il n'aura pas la chance de plaire beaucoup, que quelqu'un qui cache vachement plus sa stratégie et vachement plus ce qu'elle pense.
Tout le monde sait qu'elle est beaucoup plus dangereuse. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est juste, entre guillemets, de la stigmatiser?
Non, et c'est pour ça que maintenant elle est partout.
Oui, c'est bien le problème.
Et voilà, tu réponds toi-même à ton propre...
C'est pas juste, mais c'est efficace et c'est une bonne chose de notre point de vue.
Pour moi,
le FN, il est stigmatisé depuis des années.
Non, il est plus stigmatisé. Là, ça fait 10 ans qu'il est plus stigmatisé.
Avant, ils étaient interdits de tous les médias.
Ils étaient interdits d'antenne.
D'accord, ils sont autorisés d'antenne.
Ils passent tout le temps. Ils passent tout le temps maintenant. Tu vois Marine Le Pen plus souvent.
Non,
mais c'est vrai que
maintenant, on les met en face de chroniqueurs qui sont pas si bons que ça. Résultat, elle arrive à extrêmement bien s'en sortir. Sur Canal, régulièrement, les dernières émissions, je suis désolé, mais elle rocks.
Ça fait au moins depuis Sarkozy qu'ils sont plus du tout stigmatisés. Et à mon avis, ça remonte pas à Sarkozy, ça remonte à la fracture entre Le Pen et Maigret. À partir de la fracture entre Le Pen et Maigret, on a considéré que le FN était plus dangereux, donc qu'on pouvait les inviter sur les plateaux télé, discuter tranquillement avec eux, et on a abouti à ça.
Et puis surtout, elle se débrouille vachement mieux, et dans toutes les interviews ou débats que j'ai vus, elle s'en sort plus haut qu'elle était avant. Elle réussit très bien. Avant, c'était...
Bah, ils ont l'entraînement maintenant.
Voilà, tu l'invites, tu gueules dessus, et c'est bon, on va peut-être passer à autre chose. ton podcast est suivant.
Bon, voilà. Bon. C'était très intéressant. Mais je vais passer à quelque chose de beaucoup plus léger, vu que je vais passer à... Tadam! Ponf étude!
GG!
Comment ça va, Ponf?
Ouais, très bien, mon petit étude!
Là, déjà, je vais demander à l'unique autre personne que...
moi!
Non, non, pas toi! Ah,
bon. Ne vous inquiétez pas, ici aussi, il y en a qui se sentent très seuls.
Que tu fais moi à connaître Ponf étude. Liliane, qu'est-ce que t'en penses? Vu que tu as eu à subir ça...
Ça fait très match de foot.
Et je pense que ça résume.
Commentaire de match de foot.
Oui, mais résultat, ça me fait mal de dire ça, en fait. Non, on parle de Ponf étude.
Ah, pardon.
Alors, Ponf étude, qu'est-ce que c'est? C'est deux frères qui commentent des matchs de StarCraft 2. Alors,
je déteste
le foot, je déteste les commentaires de matchs de foot.
Moi aussi.
Mais j'avoue que ça a un petit air de commentaires de matchs de foot ou de commentaires sportifs.
Les seules deux différences, ils font des analyses intéressantes et il se passe quelque chose dans le match.
Sauf qu'il se passe des trucs intéressants vu que c'est un jeu vidéo et que c'est StarCraft 2.
C'est un bon jeu vidéo.
Et que c'est un très bon jeu vidéo.
Ils choisissent le match à commenter.
Ils ont une très bonne équipe pour sélectionnés et ils ont du talent rien que pour la façon dont ils le font, et ils ont aussi une compétence qui fait que l'analyse est souvent très intéressante.
Ils sont super drôles. Ouais. On peut regarder ça, alors c'est peut-être un peu dur au début, mais on peut regarder ça sans vraiment connaître StarCraft 2. Ça va vous donner envie de vous y mettre.
Ça t'apprend plein de choses. Moi, j'ai commencé à regarder avant d'avoir le jeu.
Oui, moi et Piouf, on a commencé par Ponf étude et après on est passé à StarCraft 2. C'est dynamique, c'est drôle, c'est entraînant. Alors, ça a une diffusion assez irrégulière, mais disons qu'il y en a généralement au moins 3-4 par semaine.
Alors, il y a à la fois un podcast et à la fois un channel YouTube, d'après ce que j'ai compris. C'est pas forcément la même chose, je crois.
Je pense qu'ils ont à peu près les mêmes vidéos. J'avais été voir une fois ou deux et j'avais l'impression qu'il y avait
iTunes
à peu près la même chose.
Plus sélectionné que...
Il y en a peut-être un peu moins sur iTunes, mais bon, bref, il y en a pas mal sur les deux. On vous conseille d'aller voir, surtout si vous jouez à StarCraft 2, mais aussi si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez les RTS, c'est super sympa.
L'orthographe, on mettra le lien, mais c'est POMF, parce que moi j'ai galéré pour trouver.
THUD, je crois.
Plus loin, THUD, ouais. Et si vous voulez en savoir plus sur les deux frères, je vous invite à regarder le Zapcast, le podcast No Watch sur les podcasts. Il y en a un qui est sur lequel ils sont invités et c'est assez intéressant.
Il y avait une vieille émission de Game Cult aussi où vous êtes invité.
Et si vous voulez en savoir plus de façon générale sur ceux dont on parle, allez toujours sur basingcast.com. Pour chaque émission, on fait un article qui s'appelle Liens et références pour justement donner les liens, les références, plus d'infos pour ceux qui veulent aller
plus loin,
etc.
Généralement, il y en a plus. Ça complète pas mal. Et on est un des rares podcasts à faire ça. Aussi bien sûr. Ponf étude, c'est top. Même si vous jouez pas, au final, c'est sympa.
Tout à fait. J'ai beaucoup plus regardé d'épisodes de Ponf étude que je n'ai fait de partie de StarCraft 2.
C'est pour ça qu'on est des grosses brêles. Et nous, d'ailleurs, on rappelle qu'on cherche des amis sur StarCraft 2.
Alors, le pseudo de Piouf, c'est...
Non, mais sinon, vous m'envoyez un email donc piouf@basingcast.com et toi, c'est xilrian@basingcast.com
ou xilrian sur à la fois Twitter et StarCraft 2.
Moi, sur StarCraft 2, c'est Colonel Piouf. Valou, c'est fini
général.
Non, les générales, c'est ceux qui se font buter quand...
Colonel.
Eh ben, merci beaucoup, Xil.
Ils sont tous morts, colonel.
C'était un plaisir. Nous allons donc conclure ce podcast qui est particulièrement court, étant donné qu'on en enregistre deux en même temps parce que je pars en vacances, mais Xil a quelque chose.
Alors, petit mot de conclusion, n'oubliez pas d'aller sur basingcast.com pour voter pour participer au sondage. Il y aura des lots à gagner et voilà.
Exactement, et ça nous aide à améliorer le podcast, etc. Il y a plein de questions à la fois techniques. C'est pas très long en plus, c'est vachement rapide à faire. Il y a aussi donc le jeu classique, allez mettre vos commentaires sur iTunes et compagnie. Cette fois-ci, on gagne Philosophie en série. Le prochain épisode, ce sera de petites news et puis une rubrique de Krillin et diverses choses. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il sera aussi court parce qu'on va l'enregistrer en fait juste après.
Donc on sera encore plus explosé.
Exactement.
Et encore plus en retard sur l'actualité.
Non, j'essaie de prendre des trucs de merde qui...
Non, des trucs très très bien, très très bien.
J'ai essayé de prendre des trucs quoi, qui vont se passer dans deux semaines. J'ai tout mis en place.
Ça s'appelle, je fais de la prospective.
Fukushima. Je voulais juste dire, il y a deux semaines, on a dit que le Japon, ce serait soit résolu, soit explosé, et c'est ni l'un ni l'autre.
C'est le
fil
rouge.
Ça va vers la fuite, mais bon. Donc peut-être que dans une semaine, quand ce sera diffusé, ça aura explosé. Enfin, on aimerait bien que ça se termine, quoi, dans un sens ou dans l'autre.
Mais non, il faut que nos news restent toujours d'actualité.
Voilà.
Deux petites annonces personnelles.
J'ai une grosse... Oui.
Je cherche des téléphones Android. Si vous voulez vous débarrasser de vos téléphones Android, genre les vieux, etc., je les rachète ou je les prends. Donc, envoyez-moi un mail, piouf@bazincast, ça m'intéresse. Même si c'est des vieux téléphones avec des écrans petits, du moins que c'est de l'Android, ça m'intéresse. Et si vous voulez devenir bêta-testeur pour l'application Pervenche sur Android, vous pouvez aussi envoyer un email. Là, par contre, c'est...
Elle n'est pas sortie
Pas sur Android, non. Sur iPhone.
Ah oui, sur Android.
C'est bêta, donc beta_pervenche@atelierdumobile.com. Voilà où ça me rendrait bien service.
Et si vous voulez envoyer un smartphone à Krilin qui a un Nokia, ça sert à rien parce que je vais garder mon Nokia.
Ouais, surtout, ça te forcera à prendre un forfait...
Ah non, je quitterai pas le Clermont.
Que tu n'as pas les moyens de te payer étant propriétaire, étant le seul propriétaire à cette table.
Propriétaire endetté, non, il y a un autre propriétaire.
Oui, moi aussi, lui, il n'est pas endetté. Ah là là, sur ce, mes chers amis, nous vous laissons. Vous nous retrouvez, nous, dans 5 minutes, mais vous, dans 15 jours, tout à fait. Je serai
14,
sur une plage balinaise en train de penser à vous tous. On vous embrasse bien fort et dans 15 jours. Au revoir.
Ciao, ciao à tous.
Barbara est serveuse dans un Hiroshima.
La situation s'aggrave encore à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon. La cuve du réacteur 3 est peut-être endommagée.
Non mais boum, quand notre cœur fait boum.
1547, à leur retour en Espagne, Marco et Polo disaient déjà à la reine autour d'une bonne tasse de thé: reine de tous les peuples d'Asie, les Japonais sont les plus petits, mais ce sont de fiers guerriers.
On va tous crever, on va tous crever, y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, la fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps, ouais. Aujourd'hui, y'a que les très très vieux qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse. Les enfants, s'ils viennent pas au monde bientôt, ils sauront jamais rien faire avec des Lego. Oui, on va tous crever, on va tous crever, y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. C'est la vengeance du bon Dieu, c'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah. En tout cas eux, comme ils sont gentils, soit ils vont pas mourir, soit s'ils meurent ils auront pas mal. Ouais, on va tous crever, on va tous crever, c'est la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Oussama et George W et les Israéliens qui se battent contre les Juifs. Que la Goyon, c'est pas des Juifs, c'est des Arabes. Et nous, on n'y comprend rien, mais on va quand même se faire taper. Et puis, il y a les Martiens, ils vont nous jeter des boules de feu, exprès pour que ça nous brûle. Et puis, il y a le lapin géant, bouffeur de planètes. Il bouffe des planètes alors qu'il y a des gens dessus. Et du coup, c'est pas très malade de sa part. Ouais, on va tous crever, on va tous crever. Y'a la fin du monde qui nous guette et nous, on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, mais des fois c'est mieux de parler d'autre chose.